À peine 48 heures après l'embargo occidental imposé au Mali, pays qui, au bout de 8 ans d'occupation militaire par les forces françaises puis otaniennes, israéliennes et américaines, n'entend plus se laisser faire, pays héritier d'un empire où la population, forte de sa foi, a décidé de prendre son destin en main, les premières ripostes maliennes tombent, et pas des moindres. Le Mali qui a fermé son ciel aux forces d'occupation françaises, un peu comme l'Algérie, qui l'a fait il y a 2 mois, faisant infliger à Barkhane des millions de dollars de pertes, ce qui a fini par décider l'Élysée à fuir le nord malien, vient de dénoncer une violation flagrante de son espace aérien. Le Mali a dénoncé une violation de son espace auprès de la France liée à la fermeture de ses frontières en représailles à des sanctions régionales. Selon une source militaire française de l'AFP pourtant, toutes les procédures ont été respectées. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire que l'armée malienne, que la force d'occupation française a pendant si longtemps humiliée, à qui elle a refusé en dépit des accords de coopération de fournir de quoi se battre contre le terrorisme made in Occident, est en droit d'abattre les Mirage 2000, les Rafales et les drones français qui pendant 8 ans ont tué, liquidé et assassiné en toute impunité. L'armée malienne en a-t-elle les moyens? Peut-être pas pour l'heure, mais vu les alliances que le Mali est en train de tisser très rapidement avec l'Est, dont la Russie, l'Algérie et l'Iran, cela ne tardera pas à arriver, comme cela s'est produit dans le cas éthiopien par exemple. Déjà la Russie et la Chine ont bloqué mardi, selon des diplomates, l'adoption d'un texte du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant les sanctions décidées par une instance africaine contre la junte au Mali où une transition vers un pouvoir civil qui durerait 5 ans a été rejetée par les États-Unis. Proposé par la France, ce texte visait à obtenir une position unie du Conseil à l'égard des militaires à la tête du Mali qui ne prévoit plus d'élections le 27 février comme s'ils étaient initialement engagés. Lundi, la résistance avait réclamé de la compréhension à l'égard des autorités maliennes au lendemain des sanctions inédites, fermeture des frontières, mesures économiques et financières lourdes prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et dire que l'ambassadrice noire des États-Unis, qui dépensait des trésors d'énergie pour que la force d'occupation française ait toute sa chance pour faire adopter sa proposition. Mais l'ex-US OTAN croit-il pouvoir mettre au pas le peuple malien de cette manière? Rien n'est moins sûr. Déjà une solidarité sans précédent au Sahel, et puis sur la côte, est en train de naître. Même en Côte d'Ivoire, où la France est solidement ancrée depuis son agression de 2010, il y a déjà un vieux paquebot qui dénonce les sanctions. Le nouveau parti panafricaniste Laurent Gbagbo trouve excessives et impertinentes les mesures de rétorsion prises par la CEDEAO contre le peuple malien. Dans un communiqué signé de son porte-parole Justin Koné-Katinan, le PPACI qualifie aussi d'inacceptable et dangereuse ce qu'il considère comme l'instrumentalisation des institutions financières et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes. Le blocus aérien, terrestre et naval du Mali est un bluff, tout comme la coupure des liaisons aériennes d'Air France à destination du Mali. C'est Mali qui a bloqué tout sur les puissances d'agression et qui a pris en ce sens la tête de la résistance africaine. Les prochains jours, les Français, les Yankees et si, connaîtront de nouveaux déboires. En effet, c'était en juillet dernier qu'un Mirage 2000 des Français s'était écrasé dans la région d'Ombori, dans le centre du Mali. La résistance malienne et même sahélienne est passée à l'action. Les messages sont passés. Ni les sanctions, ni les menaces et ni les pressions ne feront reculer le peuple malien. Et si le Mali adhérait le corridor anti-sanctions iranien? À défaut d'une victoire militaire qui consistait pour la France et ses alliés américains et otaniens en démembrement pur et simple du Mali, dessein néfaste contre quoi les Maliens ont réussi très intelligemment à neutraliser un à un les plans B atlantistes de la CEDEAO ou autrement dit de l'ex-US France déguisé et remis à la couleur africaine, cet axe a tenté à imposer un blocus dit sans précédent en malien en flagrant violation du droit international qui donne à tous les pays souverains le droit de décider lui-même de son sort, y compris aux Maliens, qui, contournant royalement les plans français, veulent que la transition dure. Lisons ce texte de RFI. Gel des avoirs, interdiction des transactions financières, blocus des frontières sauf pour les produits essentiels et les produits pharmaceutiques, le Mali est sous le coup de sanctions aussi dures qu'inédites. Dans le pays, certains voient avec inquiétude la situation économique se dégrader rapidement, tandis que d'autres réfléchissent à la façon de contourner légalement l'embargo de la CEDEAO. Et RFI d'ajouter, depuis lundi 10 janvier, l'État du Mali n'a plus accès à la banque centrale de l'UEMOA, ni à ses propres avoirs qui y sont conservés. Dans le pays, les banques n'ont plus la possibilité de demander des financements à la banque centrale comme elles le font quotidiennement. Aujourd'hui, les banques ne sont approvisionnées que lorsqu'elles justifient que le décaissement demandé à la BCEAO est destiné à financer les exceptions édictées dans les sanctions de la BCEAO. Explique Etienne Fakabo-Sissoko, économiste au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali, les CRAP. Même si le trésor malien a constitué des réserves de guerre, le pays ne tiendra pas longtemps en autarcie financière. Nous avons la possibilité, d'un point de vue des liquidités, de tenir un mois. Au-delà de deux, c'est intenable, ajoute-t-il. Mais est-ce réellement si catastrophique cet embargo? Cela fait 40 ans que l'Iran fait face aux plus dures sanctions de son histoire, sans faillir le mois du monde. Certes, il s'agit d'un pays pétrolier qui vend son pétrole comme principale source de devises, mais le Mali aussi est un pays où la richesse pétrolière le dispute aux richesses agricoles et minérales. Question des banques et ce fameux SWIFT, les Iraniens ont déjà inventé un moyen pour les contourner et il s'appelle l'économie de la résistance et qui inclut le troc avec les pays voisins ou des échanges dans des monnaies nationales. Quant à la vente des productions maliennes, il y a aussi des moyens. L'Iran n'a jamais cessé pendant toutes ces années d'embargo de faire écouler son pétrole par le transbordement avec les clients fidèles comme la Chine, ce qui pourrait être effectivement le cas du Mali. D'autant plus que le Niger et le Burkina Faso sont tous dans le même bateau avec les Maliens contre ceux qui est le plan d'atomisation des pays du Sahel, qui échoué via le terrorisme made in Occident entre exactement comme le cas iranien dans la phase économique. Les pétroliers et les cargos iraniens qui ont foulé jusqu'ici au pied les sanctions US ont déjà envoyé leurs produits en Syrie, au Venezuela et au Liban. Et ils sont prêts à reprendre le chemin du Sahel via l'Algérie. Le Mali est un pays souverain, avec une armée unique, un peuple unique, une monnaie unique, et ce n'est que le début d'une résistance multidimensionnelle, signé Mali. Alors qu'au Mali, une résistance sans précédent est en train de se former contre les pressions occidentales, au Niger, l'Occident, via ses médias de propagande, tente de déstabiliser cette coalition interafricaine qui a pris ses initiatives au Mali et s'est étendue jusqu'au Niger, le Tchad, le Burkina et enfin l'Algérie. C'est Express qui annonce ce mercredi 12 janvier que les services d'intelligence d'Algérie sont en train d'armer des groupes terroristes au Niger. Il est question de 8 groupes terroristes et qui pour la plupart sont des mercenaires qui s'activent dans la région entre Agadez et Taoua. Visiblement, le fait que les pays comme le Niger et l'Algérie qui ont tous deux été strictement contre une présence israélienne dans ce continent et qui ont condamné haut et fort la normalisation du Maroc avec le régime sioniste se rapprochent et forment des coalitions africaines et non africo-occidentales gêne. Lisons ce qu'en dit Express ensuite. Selon ces mêmes sources, il y a en ce moment même 13 agents de renseignement algériens au Niger qui fournissent argent et armes. Ils viennent équiper ces mercenaires de missiles anti-chars, des aounes et des quantités d'explosifs. L'Algérie, depuis l'avènement du président au nom imprononçable promu par Chenegria, n'a cessé de bomber son torse hégémonique en brandissant ou s'inventant un rôle sur la scène régionale et en s'impliquant dans le Sahel. Mais c'est plutôt tout l'inverse de ce que raconte ce média propagandiste. Depuis la pseudo-guerre libo-libyenne de 2020, dont l'objectif consistait à transférer les terroristes daéchistes made in US, OTAN, Israël, du Moyen-Orient vers le Sahel par Turquie, émirats interposés, et les rajouter à ces autres agents appelés par ces mêmes Occidentaux djihadistes, l'Algérie et le Niger n'ont cessé d'affermir leurs liens justement pour faire face à cet assaut, le Sahel et le Maghreb étant depuis 2017 la cible des complots de tout genre. Eh bien, le Niger et l'Algérie ont fait front commun aux grandes dames des puissances colonialistes qui comptaient à l'aide du Mossad mieux organiser les djihadistes. D'ailleurs, le renforcement sans précédent de l'armée nigérienne prouve qu'en s'appuyant sur ses capacités et en faisant appel aux forces de défense populaire, le Niger a ouvert un nouveau chapitre dans son histoire. Il y a un front anti-sioniste et anti-empire maghrébo-sahélien qui s'est créé tout au long des années où Barkhane, les États-Unis et l'OTAN travaillaient à raffermissement de leur présence. Donc, contrairement à ce que veulent faire croire les médias mainstream, le service de renseignement algérien entraîne et soutient l'armée nationale et non pas les terroristes. Que les néocolonialistes cessent leur agissement et se replient, sinon ils le feraient dans le sang. Les Nigériens ont réélu le camp Issoufou, les Burkinabés Kabore, le camp anticolonialisme est maintenu.
L'Iran annonce que les exportations vers l'Afrique ont augmenté de près de 200% en glissement annuel en mars-décembre. Téhéran a signalé une forte augmentation de ses exportations non pétrolières vers l'Afrique au cours des 9 mois précédant le 21 décembre. Un responsable de l'organisation de promotion du commerce du pays a déclaré que les exportations avaient presque triplé au cours de la période, principalement grâce au soutien accru du gouvernement aux exportateurs. Le chef du bureau arabe et africain de l'organisation de promotion du commerce, Farzad Piltin, a déclaré lundi que les exportations iraniennes vers les pays africains avaient atteint un total de 912 millions de dollars en mars-décembre de l'année dernière, en hausse de 199% par rapport à la même période en 2020. Il a précisé que le Ghana était le plus gros client d'exportation non pétrolière de l'Iran, ayant acheté pour 280 12 millions de dollars de marchandises à l'Iran au cours de cette période. La Kenya Railways annonce avoir effectué lundi 10 janvier un premier essai d'expédition de fret depuis le port de Mombasa jusqu'à Malaba, ville frontalière de l'Ouganda, via la nouvelle ligne ferroviaire qui raccorde le réseau SGR à la voie écartement métrique de Naivasha. L'opération s'est réalisée dans un contexte où l'exploitant du réseau ferroviaire envisage offrir des services de transport aux chargeurs de la région des Grands Lacs, notamment ceux de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de la RDC, du nord de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi. L'opérationnalisation de ce service de transport devrait avoir des impacts positifs sur le délai d'enlèvement des marchandises dans le port et réduire le délai de stockage des conteneurs sur la plateforme logistique intérieure de Naivasha. Au Nigeria, les investissements en devises étrangères sont en hausse au terme du troisième trimestre 2021. Le montant total des investissements en devises étrangères au sein de l'économie nigériane s'est amélioré au cours du troisième trimestre 2021 pour atteindre 1,73 milliard de dollars contre 880 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et 1,46 milliard de dollars au troisième trimestre 2020, selon des données récemment publiées par le Bureau national des statistiques NBS. Au Gabon, des compagnies chinoises souhaitent acheter 16 millions de tonnes de minerais de fer. La Chine est le plus grand consommateur de minerais de fer au monde, alors que Pékin est le premier client du Gabon en ce qui concerne le manganèse. Les réserves de minerais de fer qui reposent dans le sous-sol du pays attirent encore l'attention de grands groupes chinois. La junior minière australienne Genmin Limited, active sur le fer au Gabon, a annoncé le 12 janvier la conclusion d'un protocole d'accord avec Jianglong Group, considéré comme le deuxième sidérurgiste privé de Chine. Le contrat, qui s'étalera sur 2 ans, porte sur la vente annuelle de 2 millions de tonnes de minerais de fer en morceaux et de fines provenant du projet gabonais Baniaka.